Voilà, c'est le dernier cantique que nous avons chanté, que ton nom, non pas mon nom, mais ton nom soit béni. C'est quelque chose qui m'interpelle tout le temps. Parce que je me souviens, je ne sais pas si vous avez déjà eu ce genre de réaction, vous passez dans la rue, puisqu'il y a quelqu'un qui crie « Jésus-Christ est le Seigneur !» Je me dis « C'est bizarre ce gars-là, quoi. Est-ce que c'est cette manière-là qu'il faut annoncer le Seigneur, etc. ?» Je me rappelle, du côté de Bruxelles, en tout cas, il y en avait qui, dans la rue, qui criaient c'est Jésus est Seigneur, il faut vraiment vous approcher, c'est le seul nom par lequel on puisse être sauvé. » Tu dis, c'est quand même un peu pas très cavalier, tout ça. Hein. J'observais ça du coin de l'œil, et puis qu'est-ce que je vois? Je vois des personnes qui s'approchent de cette personne-là, qui viennent lui poser des questions. Je me suis dit, mais c'est vrai qu'il y a peut-être des personnes qui n'entendront jamais le nom du Seigneur. Alors, c'est vrai que ça me paraissait bizarre, et j'étais un peu critique. Il y a une forme à mettre et tout ça. Tout ce coup, je vois des personnes qui s'approchent. Alors, je me suis approché aussi un peu pour écouter. Et la personne m'a dit, tu veux entendre le nom du Seigneur? Je le connais déjà. Je dis, alors fais-le connaître. Je dis, allez, je viens de me prendre une baffe là. Mais c'est vrai qu'il y a parlé de Dieu. Un jeune m'appelle cette semaine et il m'interpelle. Il me dit, Joël, je suis en stage dans le nord de la France. Il fait un stage en industrie. Il me dit, nous sommes 18. Il y a un jeune qui est athée. Et qui cherche Dieu, visiblement. Il y a moi qui suis chrétien, et puis il y a 16 personnes qui sont musulmanes. Ils me disent, ils n'arrêtent pas de le bombarder pour lui prouver que le christianisme n'est pas bon et tout ça, et il leur parle de Allah. Joël, qu'est-ce que je peux leur dire? Je lui dis, écoute, en deux secondes, je ne peux pas dire, j'étais en train de faire la cuisine, en plus j'avais les mains dans la cuisine. Je dis, mais prie et parle de ta foi, parle de ton Dieu. Parle de ta relation. C'est un bon début. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont surprises parce que le monde dans lequel nous sommes, a commencé aussi par les musulmans, chacun a son Dieu, même s'ils disent qu'ils ont leur Dieu. Mais chacun se fait son petit chemin, ses œuvres pour pouvoir arriver à Dieu. Il veut passer devant l'autre. Nous savons que c'est Dieu qui est passé devant tous les autres et qui est venu jusqu'à nous. Ce n'est pas nous qui sommes allés à lui, c'est lui qui est venu jusqu'à nous. Alors j'aimerais vous encourager à faire connaître le nom de Jésus, le nom de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Puisque nous le croyons, parlons-en en toute simplicité autour de nous. Des fois, c'est intriguant, je prends l'avion, il y a quelqu'un qui me dit « Ah, vous lisez la Bible, vous avez peur de mourir ?» Je dis non, j'apprends à vivre à cause de Jésus. Après tout le temps, c'est un long temps entre Chicago et New York et Californie, en avion, on a pu parler de Jésus. Mais quelle réjouissance quand on peut en parler, n'est-ce pas? Vous êtes quelque part, l'autre jour, il y a quelqu'un qui fait le nettoyage dans la rue. Il est en train de nettoyer devant la zone commerciale. Puis je le vois, il faisait vraiment attention d'aller chercher tous les papiers. Je passe devant lui, je pose mes affaires dans la voiture et je reviens, je dis, écoutez, j'aimerais vous dire... Juste un mot, dit merci pour votre travail, merci pour... que Dieu vous bénisse. Et le monsieur s'est mis à pleurer, il me dit, on m'a jamais rien dit de gentil. Mais nous pouvons bénir les gens, n'est-ce pas? Nous pouvons dire du bien aux gens. Nous pouvons leur dire qu'ils peuvent être pardonnés, qu'ils peuvent être renouvelés, que même quel que soit le travail qu'ils font, ils peuvent être fortifiés par le Seigneur. Ce sont des paroles qui ne sont pas en l'air, ce ne pas des mots justes pour faire de la pub, c'est la vérité. Nous témoignons de ce que nous vivons, et de ce que nous recevons. Ce qui fait qu'il y a aussi bien des fois où je reviens sur le sujet des émotions que nous voulons partager depuis le mois dernier. J'aimerais vous poser la question, alors, est-ce qu'il vous est arrivé de pleurer? Et quand est-ce que vous avez pleuré la dernière fois? Quand avez-vous mal? Quand avez-vous eu mal? Moi, ça m'arrive d'avoir un coup de fil, ça peut être quelqu'un de l'Assemblée ici ou d'autres, et j'ai mal. Ça vous arrive d'avoir mal? C'est ce malaise qui se continue dans la journée. Vous priez, vous chantez, mais ce malaise reste comme ça, en latent. J'ai une amie là qui m'a téléphoné cette semaine, je connais bien, elle et son mari. Elle m'a dit, je ne supporte plus mon mari, mais je le connais, son mari. Et je vais vous dire une chose, c'est que je me suis même étonné que ils aient tenu 40 ans de mariage. C'est un homme qui a toujours humilié sa femme, tout en parlant du Seigneur le dimanche. J'ai mal. J'ai mal parce que cette dame, je l'ai toujours connue, c'était ma responsable au groupe de jeunes. Une dame gentille, toujours serviable. Pourquoi est-ce que certaines personnes ont des douleurs morales, d'autres des fois des douleurs physiques invisibles, des douleurs physiques visibles, des choses qui nous rendent tristes? Est-ce que vous croyez qu'en tant que chrétien, on peut être triste? Est-ce qu'on a le droit d'être triste? Le quotidien est la course de tous les jours. Pour chacun d'entre nous, il paraît que même à la retraite, on court. Alors, c'est dire que la course, c'est le quotidien de chaque jour. Les problèmes, toutes ces choses-là, nous voulons les voir repoussées par de la joie. Et cependant, nous devons prendre le temps d'être triste. Prendre le temps d'être vrai, prendre le temps du deuil. La parole de Dieu nous dit que le deuil se pratique et doit se prolonger, pas au-delà d'une année, mais vivre les temps, vivre profondément la tristesse pour pouvoir alors accueillir profondément la restauration. C'est un peu comme lorsque on se casse une jambe ou un bras et qu'il faut de la rééducation. Il faut prendre le temps de la rééducation. Sans rééducation, on risque de se tromper soi-même, de ne plus pouvoir faire les mêmes mouvements qu'avant. Sans faire ce temps de tristesse et de deuil, on peut passer à côté de bien des choses. Regardez Job. Job, il prend le temps d'être triste. Même si le texte de Job commence par Dieu a donné, Dieu a repris, béni soit l'Éternel. Mais il faut le temps de prendre le recul sur cette chose-là. Combien de fois où le deuil, par exemple, s'il n'est pas pris, nous en voulons à Dieu, même encore des années après, nous avons du ressentiment, nous nous rappelons de chaque instant, nous n'avons pas encore reçu la restauration. Moïse et Aaron prendront du temps aussi dans l'Écriture pour passer leur deuil, passer leurs échecs qui les ont transformés en tristesse. Le temps n'efface rien, mais il permet de trouver une issue, de trouver une sortie. Car si nous restons dans la tristesse, par contre, celle-ci ne nous mène nulle part. La tristesse, c'est un peu comme une impasse. Mais il faut des fois aller jusqu'au bout de l'impasse pour être capable de nous convertir, c'est-à-dire de changer de direction. La tristesse, la douleur, la compassion, une âme déchirée, une âme dans la tristesse, c'est aussi le signe de notre humanité. Le fait que nous sommes encore vivants. Car il y aura un jour où nous n'éprouverons plus de tristesse. Ce jour sera celui quand nous serons avec lui. Avec la mort, il n'y a plus de tristesse pour le mort. C'est pour ceux qui restent vivants. Ainsi, vivre les moments de tristesse est un signe d'humanité, de solidarité les uns avec les autres. C'est signe du fait que vous êtes encore bien vivants, comme Dieu vous a créé. Prenons ensemble quelques passages pour pouvoir souligner ces moments de tristesse et les issues qui nous en sont données. Je vous propose pour ça de prendre des exemples du Christ lui-même. Il a été triste. Prenons Jean 11, versets 17 et suivants. Jean 11, 17 et suivants. Quand Jésus arriva, il apprit que Lazare était dans la tombe depuis 4 jours déjà. Béthanie est proche de Jérusalem, à environ 3 km, et beaucoup de Juifs étaient venus chez Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Quand Marthe apprit que Jésus arrivait, elle partit à sa rencontre, mais Marie resta assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant encore, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. » Jésus déclara, ton frère ressuscitera. Marthe répondit, je sais qu'il ressuscitera lors de la résurrection des morts, au dernier jour. Jésus ajouta, moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Oui, Seigneur, déclara-t-elle, je crois que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, celui qui vient dans le monde. Après avoir dit cela, Marthe s'en alla, appeler sa sœur Marie, et lui dit en privé, le maître est là, il te demande. À ces mots, elle se leva immédiatement et alla devant de Jésus. Or, Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré, quand les Juifs qui étaient dans la maison avec Jésus, avec Marie, pour la consoler de la virent, se lever en hâte et sortir, ils la suivirent. Ils pensaient qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie arriva là où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Quand Jésus la vit pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, il ressentit une forte colère et se troubla. Il leur demanda, où l'avez-vous mis? Ils lui répondirent, Seigneur, viens et tu verras. Jésus pleura. Les Juifs dirent alors, voyez comme il l'aimait. Mais quelques-uns d'entre eux disaient, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas aussi empêcher Lazare de mourir? Alors Jésus, ressentant de nouveau une forte colère, se rend au tombeau. C'était une grotte dont l'entrée était fermée par une grosse pierre. Enlevez la pierre, dit Jésus. Marthe, la sœur du mort, répliqua, Seigneur, il doit sentir mauvais, car il y a déjà 4 jours qu'il est ici. Jésus lui répondit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? On enleva donc la pierre. Jésus leva les yeux vers le ciel et dit, Père, je te remercie de m'avoir écouté. Moi, je sais que tu m'écoutes toujours, mais je parle pour cette foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. Après ces mots, il cria d'une voix très forte, Lazare, sors de là! La mort sortit, les pieds, le mort sortit, les pieds et les mains attachés par des bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus dit, déliez-le et laissez-le aller. Beaucoup de Juifs parmi ceux qui étaient venus chez Marie, qui avaient vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Mais quelques-uns allèrent trouver les pharisiens et leur racontèrent ce que Jésus avait fait. Les chefs des prêtres et les pharisiens réunirent alors le conseil suprême et dirent, qu'allons-nous faire? Car cet homme réalise beaucoup de signes extraordinaires. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui et les Romains interviendront. Ils prendront et notre temple et notre peuple. Jésus face à la mort, face à la perte de quelqu'un, face au deuil. Le deuil, ça peut être la perte d'une personne. Ça peut être pour certains la perte de son travail, la perte de son identité, la perte de son couple, la perte de quelque chose à laquelle vous tenez. Cette peine est toute personnelle. Marthe la vit d'une certaine manière, Marie d'une autre, mais le résultat est le même. La solitude. Le deuil nous isole les uns des autres. La tristesse est difficile à partager, même dans un couple. Vous dites à l'autre ce que vous ressentez, l'autre dit oui, mais tu ne comprends pas ce que je te dis. Parce que chacun le vit différemment. Ici, dans le cadre où nous sommes, il y a plusieurs personnages et chacun le vit de son côté, avec cette tristesse qui est de ne pas pouvoir rejoindre l'autre aussi. Mais Jésus intervient. Il pleure. Il prend le temps de comprendre la situation. Mais que se passe-t-il? Nous voyons qu'au milieu du deuil, certains vivent aussi ce moment-là pour critiquer Jésus. Si tu avais été là, les choses ne se seraient pas passées comme cela. N'avons-nous pas aussi de temps en temps cette réaction de tristesse et dans la tristesse de dire, mais Seigneur, tu es où? Tu fais quoi? C'est le bon début. C'est le bon commencement. S'adresser à celui qui peut tout en son temps. Celui qui est triste avec nous et qui est joyeux avec nous. Celui qui veut nous restaurer. Ici, en l'occurrence, ce sera la résurrection de Lazare. Mais la résurrection de Lazare n'a qu'un seul sens, puisque Lazare mourra un peu plus tard. Et ce sera une autre tristesse. Ici, nous voyons qu'au milieu du deuil, c'est encore une fois le nom de Dieu qui doit être glorifié. Je parle pour cette foule qui m'entoure afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. Même dans la tristesse. Nous pouvons alors nous adresser à Dieu et inviter ceux qui sont autour de nous à recevoir le pardon, à recevoir les choses dont nous avons besoin, de recevoir la consolation. Jésus, en donnant la résurrection à Lazare, lui donne de l'avenir. Au milieu de la tristesse, Dieu veut nous donner de l'avenir. Il veut que nous puissions pleurer un temps, et comme le dit l'Écriture, et c'est encore Jésus qui nous le signalera, pleurez avec ceux qui pleurent, soyez joyeux avec ceux qui sont joyeux. Et il y a un temps pour chaque chose, prenez le temps d'être restauré. Dans la tristesse, nous devons crier à Dieu pour pouvoir recevoir de lui cet avenir. Cet avenir qui commence aujourd'hui, c'est pas seulement dans l'éternité. Aujourd'hui, Dieu veut nous consoler. Ce n'est pas un vain mot. Ces derniers temps, j'ai eu plusieurs deuils autour de moi. Personne âgée, une dame de 100 ans qui venait de fêter ses 100 ans. Deux mois après, terminé, en très peu de temps. D'autres plus jeunes, d'autres très jeunes. Nous avons besoin, dans la tristesse, d'être relevés, d'être rassurés que Dieu peut tout et qu'il accueille ceux qui sont partis avant nous. De savoir que dans la difficulté, dans la tristesse qui est la nôtre au quotidien, de la solitude aussi, Dieu veut nous rejoindre. C'est facile de dire à quelqu'un, tu sais, tu n'es jamais tout seul, Jésus est avec toi. Mais de vivre au quotidien, tout seul, peut-être à faire sa cuisine, sa popote, c'est autre chose. Peut-être que la solution dans la tristesse, c'est d'être juste présents les uns à côté des autres. De ne pas vivre la tristesse seule, mais de la vivre ensemble. Et c'est ce qui se passe ici. Jésus rejoint, Jésus rassemble, Jésus ressuscite, Jésus donne un avenir et nous permet alors de nous rappeler qu'il y a quelque chose de plus important que notre corps. Oui, c'est vrai que nous pouvons avoir de la tristesse. J'ai même eu une histoire comme ça, assez amusante. Je vais chez une amie, je sonne à la porte pour lui rapporter des choses que j'avais chez moi, qui étaient à elle. Et j'ouvre la porte et je la vois pleurer. Et me dit, il est mort. Je dis, ça y est, c'est pas le bon moment. Hein, je ne sais pas si vous avez déjà eu ce genre de situation. Quelqu'un dit, voilà, j'ai un décès. Je dis, vous ne savez pas de qui il s'agit, ni quoi que ce soit. Et je la prends dans mes bras et je dis, bon, écoute, viens, on va... Et elle pleure. Et on s'assoit et la télé est allumée. Et je dis, mais qui est mort? Elle me montre à la télévision, le chien. C'était un film où un chien venait de mourir.
Un film en plus.
Alors je regarde, je dis, mais... J'ai eu le malheur, de dire, ce n'est qu'un film. Je dis, et alors? Je suis triste. Vous voyez comme on peut des fois passer à côté de quelque chose. Alors je suis resté avec elle voir la fin du film. Je vous spoil le film, il n'est pas ressuscité. Par contre, j'ai pu parler, ça m'est arrivé plusieurs fois de lui parler à cette dame du fait qu'il faut préparer notre âme. Car ce qu'il y a de finalement plus terrible dans tout cela, c'est que Dieu veut sauver notre âme. Encore une fois, Jean 3,16, que nous connaissons par cœur, n'est-ce pas, puisqu'il a affiché, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne meure point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il y a quelques jours, je lisais un autre texte dans l'évangile de Jean, où dit, Jésus dit, mais quand bien même il viendrait à mourir, il n'est pas mort. Notre espérance, notre résurrection, elle est déjà profilée pour ceux qui croient en lui. Ainsi, quoique triste, je peux regarder au travers de Jésus, et seulement au travers de Jésus, la résurrection de ceux qui nous ont précédés dans la mort et qui sont avec lui. Ne pas nous soucier seulement de notre vie terrestre qui nous apporte beaucoup de tristesse, mais combien nous devrions être tristes de l'état de notre âme, de notre état d'âme, mais aussi de l'état d'âme de notre prochain. En hébreu, quand on se salue, on dit « Mashlomer » ou « Mashlomcha », qui veut dire « Comment va ta paix ?» On ne parle pas alors de la joie extérieure qui peut camoufler des choses intérieures. Je vous ai déjà partagé, le mois dernier, j'étais avec une jeune fille ukrainienne qui était et qui se sentait coupable des fois de sourire et de rire au milieu des autres alors que sa famille était à Odessa. C'est cette ambivalence que Dieu veut que nous vivions. Pleinement la joie, pleinement la tristesse, mais pleinement notre espérance. Lisons un instant un texte dans le psaume, au verset 40, le chapitre 42, psaume 42. Comme une biche soupire après l'eau du ruisseau, moi aussi je soupire après toi, mon Dieu. J'ai soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand pourrais-je enfin entrer dans son temple pour me présenter devant lui ? Jour et nuit, j'ai ma ration de larmes, car on me dit sans cesse, « Ton Dieu, que fait-il donc ?» Je laisse revenir les souvenirs émouvants du temps où j'avançais en tête du cortège vers la maison de Dieu avec une foule de personnes en fête qui criaient à Dieu leur reconnaissance et leur joie. À quoi bon me désoler ? À quoi bon me plaindre de mon sort ? Mieux vaut espérer en Dieu et le louer à nouveau, lui, mon Sauveur et mon Dieu. Au lieu de me désoler, je m'adresse à toi, mon Dieu, depuis l'endroit où je suis, aux sources du Jourdain, près du Mont Petit, dans les montagnes de l'Hermon. Tu fais gronder les torrents, un flot en appelle un autre. Tu les fais tous déferler sur moi. Je suis complètement submergé. Que le Seigneur me montre sa bonté le jour et je passerai la nuit à chanter pour lui, à prier le Dieu qui me fait vivre. Je veux dire à Dieu, mon rocher, pourquoi m'as-tu oublié ? Pourquoi dois-je vivre accablé ? Pourquoi laisses-tu mes ennemis m'écraser ? Me voilà complètement brisé par leurs insultes. Quand ils me disent sans cesse, ton Dieu, que fait-il donc ? À quoi bon me désoler ? À quoi bon me plaindre de mon sort ? Mieux vaut espérer en Dieu et le louer à nouveau, lui, mon Sauveur et mon Dieu. Marie a une confession particulière dans Jean, au chapitre 11. Relisons au chapitre 11, le verset 27. Oui, Seigneur, déclara-t-elle, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. Au moment de la tristesse, nous rappeler qui est le Christ. Lui aussi est mort à la croix et nous a précédés dans la résurrection. Oui, il est le Fils de Dieu. Il est celui qui me permet d'avoir une vraie foi, c'est-à-dire l'espérance de quelque chose que je ne vois pas, mais dont j'en ai la certitude. C'est un truc de fou, ça, non ? Comment vous voulez expliquer cela à quelqu'un ? Quelle déclaration ! Oui, Seigneur, déclara-t-elle, je crois que tu es le Christ, le Fils du Dieu, Dieu vivant, certaines traductions, celui qui vient dans le monde. La résurrection de Christ. Au milieu de la tristesse est notre secours, notre espérance, la sortie de notre tunnel, la lumière qui nous permet de voir la fin et le début. La fin de nos tristesses et les débuts de l'éternité. L'Apocalypse nous le promet. Un jour, plus de grincements de dents, plus de pleurs, plus de maladies, plus de raisons de se plaindre. Mais au contraire, le soin éternel. Le soin d'une vie éternelle. Relisons un autre texte dans Luc au chapitre 19. Luc 19. Nous lirons à partir du verset 28. Après avoir ainsi parlé, Jésus partit en avant sur le chemin qui montait à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, près de la colline appelée Mont des Oliviers, il envoya deux disciples. « Allez au village qui est en face, leur dit-il. Quand vous y serez arrivés, vous trouverez un petit âne attaché sur lequel personne ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le ici. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, dites-lui, le Seigneur en a besoin. » Les envoyés partirent et trouvèrent tout comme Jésus le leur avait dit. Pendant qu'ils détachaient l'âne, ses propriétaires leur dirent « Pourquoi détachez-vous cet âne ?» Ils répondirent « Le Seigneur en a besoin. » Puis ils amenèrent l'âne à Jésus, ils jetèrent leur manteau sur l'animal et ils firent monter Jésus. À mesure qu'il avançait, les gens étendaient leur manteau sur le chemin, tandis qu'il approchait de Jérusalem par le chemin qui descend du Mont des Oliviers. Toute la foule des disciples, pleine de joie, se mit à louer Dieu d'une voix forte pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Il disait « Que Dieu bénisse le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire à Dieu au plus haut des cieux. » Quelques pharisiens qui se trouvaient dans la foule dirent à Jésus « Maître, fais taire tes disciples. » Jésus répondit « Je vous le déclare, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Quand Jésus fut près de la ville et qu'il la vit, il pleura sur elle, en disant, « Si seulement tu comprenais toi aussi en ce jour comment trouver la paix. Mais maintenant, cela est resté caché à tes yeux, car des jours viendront pour toi où tes ennemis t'entoureront d'ouvrages fortifiés, t'assiégeront et te presseront de tous côtés. Ils te détruiront complètement, toi et ta population. Ils ne te laisseront pas une seule pierre posée sur une autre, parce que tu n'as pas reconnu le temps où Dieu est venu te secourir. » Jésus pleure. Il est visiblement le seul à pleurer à ce moment-là. Pourquoi ? Parce que tous les autres sont en train de célébrer Jésus, le roi des Juifs, celui qui va restaurer toute la royauté en Israël. Et Jésus pleure. Quelle solitude pour Jésus. Il pleure sur les âmes perdues. Il pleure sur tous ceux qui se sont détournés de lui. Et pour qui le message était là en premier? Nous pouvons lire ça dans l'Épître aux Romains. L'Évangile est pour le Juif premièrement, puis pour toutes les nations. Cette puissance, ils l'ont détournée. Jésus dira même à un autre moment, « Je vous donne ma paix, une paix que le monde ne connaît pas. » Et cette paix n'a pas été saisie. Et là où il n'y a pas la paix, il y a la guerre. Les gens qui sont en paix ne font pas la guerre. Ils ne cherchent pas à conquérir quoi que ce soit, car ils ont tout pleinement en notre Seigneur, en Dieu. Dieu ne nous a jamais demandé de faire une guerre sainte. Il ne nous a jamais demandé de mener des combats physiques. Il nous a dit, si on te frappe sur la joue droite, tends la joue gauche, ce sera un témoignage. Il nous a dit d'aimer nos ennemis. Il nous a dit de prier pour nos ennemis. Il nous a dit que, comme nous l'avons vu juste avant, quand on pleure, il nous suffit de l'appeler. Pas la peine de s'en prendre ni au ciel, ni à la terre. Dieu intervient alors comme le consolateur, comme celui qui désire prendre cette place en nous. Si seulement tu comprenais toi aussi en ce jour comment trouver la paix. Mais maintenant, cela est resté caché à tes yeux. Moi, j'y pense en prenant le métro le dimanche matin, quand je vous rejoins, et ce matin en courant très très vite parce que les escalators étaient tous en panne. Et je suis essoufflé, je dis, oula, il ne suffirait pas que j'arrête mon cœur là dans une montée, parce qu'il y a des moments où c'est... Et je dis, mais moi, je suis prêt. Et alors, je vois tous les gens de partout, je dis, mais je devrais mettre un t-shirt avec écrit Jésus et mon Seigneur ou quelque chose. Je n'ai pas le temps de leur parler, mais encore une fois, que le nom du Seigneur puisse être connu. Qu'ils puissent interpeller les uns les autres, être moins discrets, être plus obéissants à ce commandement fait de toutes les nations des disciples, celui de l'épître de Pierre, la première au chapitre 3, soit toujours prêt à répondre et à témoigner de ce que Dieu fait en toi. J'ai le droit de pleurer. J'ai même le droit de pleurer avec force quand je regarde ceux de ma famille qui ne sont pas encore à Christ. Pourquoi ne pas choisir Jésus qui est le salut? Peut-être parce que les gens ne le connaissent pas. J'étais surpris dans les petits reportages qu'on peut trouver sur YouTube, des reportages faits dans quelques banlieues où les gens demandent « Tu connais Jésus ?» Et il dit « Oui, c'est le garagiste, il s'appelle Jesus dos Santos, et je ne sais pas quoi encore. » là. C'est la réaction. La première réaction n'est pas de parler du Seigneur. Pourquoi repousser le Consolateur, n'est-ce pas ce qu'il nous a dit en nous envoyant le Saint-Esprit? Je vous envoie le Consolateur, celui qui viendra consoler vos cœurs et vous donner les moyens de témoigner. Dieu mettra au travers du Saint-Esprit dans nos bouches les mots pour que les autres ne soient plus tristes. Ou plutôt que quand ils sont tristes, ils puissent s'adresser à celui qui ne refuse jamais sa paix. Pourquoi ne pas vivre en paix? Jésus observe. Et la raison de sa tristesse, c'est qu'il aime. Il aime Jérusalem. Il aime les Juifs, comme il aime toutes les nations. La motivation n'enlève rien à la tristesse. Son amour se heurte à l'incrédulité, à l'impasse, cette fois-ci, de nos cœurs. Et si nous étions, nous, en tant que chrétiens, déjà dans une impasse? Celle où nous ne croyons plus que Dieu soit si puissant. Nous ne croyons plus que Dieu console. Vous savez, ces temps où nous avons l'impression que tout est noir, que rien n'est clair. Alors Jésus dit qu'il prie pour nous, qu'il intercède, comme il le fait pour Jérusalem. À la croix, il rajoutera, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais ceci reste gravé pour nous aujourd'hui, parce que ressuscité, ce sera l'envoi des disciples de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Les Gobelins, c'est un peu les extrémités de la terre. On va dire que c'est le fond de la cour. Il faut beaucoup de courage pour venir jusqu'au fond de la cour. Alors, puisque les gens ont du mal à entrer jusqu'au fond de la cour, c'est chacun de nous qui apporterons les gens jusqu'au fond de la cour. Car au fond de la cour, ce n'est pas une impasse. Nous voulons vivre ensemble pour que même au moment de la tristesse, nous puissions chercher ensemble le chemin de la solution. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Non pas l'impasse dans laquelle tu entres, où je me réjouis, mais plutôt la paix dans laquelle tu peux recevoir toute joie. Nous reverrons la joie dans la prochaine intervention, avec en particulier cette joie qui est donnée aux Philippiens. Réjouissez-vous toujours, je le répète, réjouissez-vous toujours. Avec un petit mot que j'ai exprès omis à l'instant. Qu'est-ce qu'il y a dans cette phrase qui manque? Réjouissez-vous toujours, je le répète, réjouissez-vous toujours. Qu'est-ce qui manque comme mot? Dans le Seigneur. Il ne faut jamais oublier qu'il y a une clé. Sinon, vous dites à quelqu'un, réjouissez-vous toujours. Vous arrivez alors dans ces conclusions où vous êtes peut-être allé à des enterrements où les gens disent, réjouissez-vous, il est avec le Seigneur. Oui, mais nous, où en est-nous? Oui, celui qui est parti fait la réjouissance du cœur du Seigneur. Mais pour nous, c'est l'inverse. Alors, réjouissons-nous dans le Seigneur veut dire tout simplement que nous puissions les uns et les autres, comme Jésus l'a demandé à Marthe et à Marie, rappelez-vous les grâces que j'ai accordées. Nous allons un tout petit peu plus loin en terminant avec Hébreux au chapitre 5. Versets 1 à 10. Ça va? Vous me suivez? Je bombe un petit peu parce que j'ai toujours beaucoup de choses à dire. Je suis tellement content. Chapitre 5, versets 1 à 10. Tout grand prêtre est pris parmi les humains. Il a pour fonction de servir Dieu en leur faveur. Il offre des dons et des sacrifices pour les péchés. Il est lui-même exposé à bien des faiblesses. Il peut donc montrer de la compréhension à l'égard des ignorants et de ceux qui commettent des erreurs. Et parce qu'il est faible lui-même, il doit offrir des sacrifices, non seulement pour les péchés du peuple, mais aussi pour les siens. Personne ne peut s'attribuer l'honneur d'être grand prêtre. On le devient seulement par appel de Dieu, comme ce fut le cas pour Aaron. Le Christ également ne s'est pas accordé lui-même l'honneur d'être grand prêtre. Il l'a reçu de Dieu qui lui a déclaré « C'est toi qui es mon fils. Aujourd'hui, je t'ai fait naître. » Et d'ailleurs, il dit « Tu es prêtre pour toujours à la manière de Melchisédek. » Durant sa vie terrestre, Jésus adressa des prières et des supplications accompagnées de grands cris et de larmes à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Et Dieu l'exauça à cause de sa soumission. Bien qu'il fût le fils de Dieu, il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Conduit à sa perfection, il est devenu la source d'un salut éternel pour toutes les personnes qui lui obéissent. En effet, Dieu l'a déclaré grand prêtre à la manière de Melchisédek. Jésus a pleinement expérimenté la tristesse. Des larmes. Pas simplement des larmes de crocodile, vous savez, qu'on sort juste au moment. J'ai toujours frappé... que j'étais dans des pays d'Extrême-Orient ou en Afrique, par les pleureuses. Elles pleurent. Une fois, j'ai interpellé, j'ai dit, mais elle connaissait vraiment la personne qui est morte? Non, pas du tout. J'ai commencé à dire, non, pas du tout. Non. Elles pleurent parce qu'il faut pleurer. Frères et sœurs, on ne pleure pas parce qu'il faut pleurer. On pleure parce que Dieu vous a donné un nouveau cœur. Et parce que vous aimez pleinement votre prochain, votre mari, votre femme, vos enfants, et qu'une séparation, qu'un accident est toujours douloureux. Dieu vous a donné encore plus un cœur sensible. Comme le faisaient les grands-prêtres, ils sont conscients qu'eux aussi sont comme les autres de la même pâte. Il y a des moments où j'ai eu du mal à faire certains enterrements parce que j'étais tellement proche de la personne. La douleur. La douleur qui nous est dit à trouver une issue chez Jésus. Je ne sais pas si vous l'avez noté. Durant sa vie terrestre, Jésus adressa des prières et des supplications accompagnées de grands cris et de larmes à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Et Dieu l'exauça à cause de sa soumission. Bien qu'il fût le Fils de Dieu, il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Frères et sœurs, il y a une clé dans notre texte. Au milieu de la souffrance, ne rajoutons pas à nous-mêmes une autre souffrance, celle de regarder dans la mauvaise direction. Ici, on nous parle de l'obéissance, de se soumettre tout entier à Dieu. Avant d'aller à la croix, Jésus dira que si c'était possible, la coupe de souffrance qui était devant lui puisse s'éloigner, mais pas non sa volonté, mais la volonté de Dieu, son Père. Cette obéissance qui n'est pas une obéissance aveugle, mais une obéissance de la foi. Seigneur, viens à mon secours, car il n'y a que toi qui peux me donner du réconfort. Il n'y a que toi qui puisse me consoler. Lors d'une discussion avec un membre de ma famille, belle famille, en public, cette personne-là qui est athée a confessé que s'il allait mieux aujourd'hui, c'est peut-être parce que les chrétiens de sa famille avaient prié pour lui. Devant une centaine de personnes, il a dit cela. J'étais tellement surpris que j'étais de dos, hein, parce que c'était une grande salle. Je me suis retourné et je me suis levé, je suis allé l'embrasser particulièrement. Il y a des moments où il faut savoir simplement obéir à Dieu. Non pas se détourner Dieu, mais obéir à Dieu, c'est se tourner vers lui avec foi et lui réclamer la guérison. La guérison de notre tristesse, la guérison de nos deuils. Ça n'a rien à voir avec la soumission qui appartient à une autre religion, qui signifie dans une forme de fatalité que même s'il m'arrive quelque chose, c'est la volonté de Dieu. Inch'Allah, je l'ai dit. Il y a des textes terribles dans l'islam qui disent qu'il faut accepter tout sans broncher. Dieu nous dit qu'il ne désire pas pour nous la souffrance. Il est celui qui nous accompagne et qui nous sort de cette souffrance. Et ceci, déjà ici-bas. Pour obéir, il nous faut nous rappeler alors être reconnaissant, comme on l'a dit en introduction, comme je l'ai dit il y a quelques semaines, à propos de la foi sans voir. Si nous voulons sortir de la tristesse, alors il faut nous rappeler la compassion et le point d'ancrage de notre foi. Je conclue avec le texte de Jacques au chapitre 1. Jacques, chapitre 1. Page qui colle, attention. Je ne devrais pas acheter des bibles neuves, je devrais acheter des bibles d'occasion. C'est quand même plus simple. Allez. On va y arriver. Je n'arrive pas, elle n'est pas trop collée. Tu l'as affiché ? Jacques, tu peux afficher Jacques, chapitre 1. Mes pages sont trop collées. Verset 3. Car vous le savez, si votre foi résiste à l'épreuve, celle-ci produira la persévérance. La tristesse est une épreuve. Frères et sœurs, je prie et nous prions les uns pour les autres, afin que nous ayons toujours le bon réflexe. Oui, dans la joie, il est dit de ne pas oublier l'Éternel, n'est-ce pas ? Mais dans la tristesse non plus ? Non pas pour lui en attribuer la signature, mais pour lui en attribuer le salut et la guérison. Que Dieu nous aide à vivre ces choses-là avec profondeur, avec vérité, pour qu'aucun moment de notre vie ne puisse pas être un moment où le nom de l'Éternel soit glorifié. C'est pour nous, c'est pour vous, c'est pour le monde dans lequel nous sommes. Il n'y a pas aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés, nous puissions être consolés. Amen.
Amen.
Je vais prier. Seigneur, nous voulons te bénir pour tes grâces. Nous voulons te bénir pour tout ce qui a déjà été accompli, tout ce que tu accompliras encore. Non seulement sous les formes de bénédictions positives, mais aussi toutes les fois où tu nous as accompagnés dans les tunnels, dans les impasses. Toutes les fois où, dans le deuil, dans la tristesse, tu as été présent. Des fois silencieux, des fois plus actifs, mais toujours présents. Seigneur, nous sommes au bénéfice de ton pardon, mais surtout de ta résurrection, c'est-à-dire notre âme est vivante. Nous ne la laisserons pas s'engloutir avec la mort. Et nous voulons te rendre gloire, ensemble encore ce matin. Amen.
Mmh.